Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
6h avant minuit, mercredi 23 avril 2025, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab et c'est une superbe idée. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'occasion pour moi de vous donner un petit conseil lecture. Et en bonne journaliste que je ne peux pas m'empêcher de penser à un tout petit livre, mais qui est très grand en contenu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler autour de la table de Félix Fénéon ? Non ? Super ! Félix, c'était un critique d'art et journaliste anarchiste qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Il écrivait au début du 20e pour le journal Le Matin à la rubrique Nouvelles en trois lignes. C'est d'ailleurs le titre du petit bouquin que je vous conseille et qui recense certaines dépêches très courtes de cette rubrique. Des brèves décrivant des news, souvent des faits divers, de la façon la plus condensée possible en trois lignes. Fénéon s'est emparé de ce format pour y apporter son style, qu'on peut qualifier de caustique, voire d'ironique. Je vous lis quelques petits extraits des news donnés par Fénéon et qu'on peut retrouver dans le livre Nouvelles en trois lignes pour vous donner envie de le lire. C'est parti, je précise, ce sont de véritables faits divers. Le professeur de natation Renard, dont les élèves tritonnaient en Marne, à Charenton, s'est mis à l'eau lui-même. Il s'est noyé. À peine marié, les boulches de Lambézelec Finistère étaient déjà tellement ivres qu'il fallut les coffrer sur l'heure. Il avait parié de boire d'affilée 15 absinthes en mangeant 1 kilo de bœuf. À la 9e, Théophile Papin d'Ivry s'écroula. Voilà, je m'arrête là. Tout de suite, le flash de Romain.
Des négociations encore chahutées. Sur le point de reprendre un peu une trêve pascale brisée, les pourparlers pour un cessez-le-feu en Ukraine semblent déjà compromis. Cet après-midi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annulé son déplacement à Londres à la dernière minute. La réunion entre les ministres ukrainiens, anglais, français, américains est donc reportée. Les discussions continuent quand même entre les émissaires de ces pays. Vladimir Poutine continue, lui, de discuter avec les États-Unis. Cette nuit, une attaque de drone a encore fait 9 morts et 49 blessés civils. Le Vatican se prépare à quelques journées des funérailles du pape François. Celles-ci auront lieu samedi à partir de 10h. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus. Ils et elles rendront un dernier hommage au souverain pontife. De nombreux chefs d'État ont confirmé leur présence, parmi elles et eux Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky ou Donald Trump. Le corps du pape est exposé depuis aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre. Comme le veut la tradition, les fidèles peuvent se recueillir une dernière fois avant les obsèques du représentant sur terre de la religion catholique. Le bras de fer entre l'Union européenne et les géants de la tech continue. La Commission européenne a annoncé aujourd'hui des sanctions financières contre Apple et Meta, maison mère de Facebook et Instagram notamment. 500 millions d'euros pour Apple, 200 millions pour Meta. La cause des infractions à la concurrence dans l'usage des données personnelles. Apple doit informer gratuitement les clients et clientes des autres offres disponibles en dehors de l'App Store. Et pour Meta, la firme ne respecterait pas l'obligation de donner aux consommateurs et consommatrices le choix d'un service utilisant moins de leurs données à caractère personnel. Apple s'est dit injustement ciblé et a annoncé faire appel. Ces sanctions envers des entreprises américaines interviennent en pleine négociation autour des droits de douane toujours plus importants imposés par l'administration Trump. Violence sexiste et sexuelle dans la marine marchande. Le procès Genavir se poursuit à Brest. L'entreprise et plusieurs de ses anciens salariés sont accusés d'avoir fermé les yeux sur des faits de harcèlement moral et sexuel en mer. Ça s'est passé entre 2017 et 2019. 7 personnes ont témoigné hier à Brest devant une salle d'audience pleine. Les accusés jouent la carte de l'environnement toxique favorable aux abus d'alcool. Le procès dure encore jusqu'à demain. Les deux principaux accusés risquent 1 et 2 ans de prison avec sursis. Nouvelle révélation dans l'affaire Bétaram, la fille de François Bayrou affirme avoir subi des violences lors d'un camp d'été organisé par l'établissement catholique. Que contient exactement ce témoignage, Anthony ?
Eh ben, c'est dans un entretien à Paris Match qu'Hélène Perlan, fille du Premier ministre, s'est confiée hier. Elle-même, au sein de l'école, accusée de nombreux sévices, elle dénonce des violences dont elle a été témoin, mais aussi victime. Dans un livre à paraître demain intitulé « Le silence de Bétaram », la femme de 53 ans raconte, je cite, « Dans cette colo, on était une quarantaine, moniteurs inclus. Un soir, alors qu'on déballe nos sacs de couchage, le père Lartigué me saisit tout d'un coup par les cheveux. Il me traîne au sol, sur plusieurs mètres, et me rouait de coups de poing, de coups de pied, sur tout le corps, surtout dans le ventre. Il pesait environ 120 kilos. » Fin de cité. L'adolescente est alors âgée de 14 ans. La fille du Premier ministre affirme que les victimes des coups et d'agressions sexuelles n'ont pas parlé, car, je cite, « Bétaram était organisé comme une secte ou un régime totalitaire, exerçant une pression psychologique sur les élèves et les enseignants pour qu'ils se taisent. » Hélène Pernand l'assure, son père accusé d'avoir couvert les agissements de l'établissement catholique n'était pas au courant de rien. Selon un fidèle de François Bayrou, cité par Le Parisien, le Premier ministre aurait été bouleversé par le témoignage de sa fille. Pourtant, François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale lorsqu'en avril 1996, une plainte dénonçait déjà les violences physiques d'un surveillant de l'école. Des violences pour lesquelles l'accusé a été condamné par la suite et qui visaient un enfant de la classe du fils de l'homme politique. Selon une enquête de Mediapart, publiée en février dernier, des témoignages prouveraient aussi que François Bayrou était au courant de ces agressions dès les années 90 et aurait tenté de les minimiser. Le Premier ministre sera entendu par la commission d'enquête parlementaire sur les violences et les contrôles de l'État dans les établissements scolaires le 14 mai prochain.
Et le livre « Le silence de Bétaram » d'Alain Esquer est à retrouver en librairie dès demain. Merci Anthony. Un nouveau parti politique à Rennes, le parti Equinox, organise une réunion citoyenne ce samedi. Alors Equinox, c'est un parti politique jeune fondé par des personnes entre 20 et 30 ans. Il veut répondre aux crises démocratiques, environnementales et sociales, tout en privilégiant la convivialité, la sobriété et l'engagement. Au programme de cette journée, présentation du parti, atelier débat et moment convivial. Rendez-vous donc samedi de 14h à 18h à la Maison des Associations de Rennes. Est-ce que vous avez vu Visible et de retour à Rennes? Alors je vous explique, Visible, c'est un événement existant depuis 4 ans, organisé par les nouvelles oratrices. C'est un centre de formation avec pour but de réduire les inégalités dans la prise de parole des femmes. Pardon. Au programme, 3 jours d'ateliers et d'interventions avec des ateliers en non-mixité choisis pour apprendre à s'exprimer avec assurance. Samedi, la journée est pensée pour la famille afin de déconstruire les stéréotypes dans l'éducation. Ça commence donc demain et ça se passe au Triangle à Rennes.
C'est la fin de ce flash, mais on reste avec toi Romain pour l'interview. Qui reçois-tu ce soir ?
Eh ben aujourd'hui, je reçois Jeanne Fromer. Vous êtes programmatrice du Festival National du Film d'Animation. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce festival, il est organisé par l'AFCA, l'Association Française du Cinéma d'Animation. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'asso et son rôle un peu pour le cinéma d'animation ?
Oui, bien sûr. Donc, l'AFCA, c'est une association dont les missions principales sont de valoriser et de faire la promotion du cinéma d'animation et plus particulièrement du cinéma d'animation français de toute la filière. Donc, c'est une association qui regroupe à la fois des professionnels, donc qui a à la fois un observatoire, voilà, qui suit tous les enjeux de la filière et qui en fait la promotion avec des événements publics, donc le festival dont on va parler, mais aussi la fête du cinéma d'animation qui a lieu au mois d'octobre et qui est dans toute la France, et tout un tas d'autres actions qui permettent au public de découvrir le cinéma d'animation et de rencontrer aussi les équipes derrière les films.
Donc ce festival, il a commencé hier. Comment ça s'est passé pour l'instant ?
Eh bien très bien, puisqu'on a fait une salle comble pour l'ouverture du festival donc au TNB, ce qui est assez rare. Donc on est vraiment très heureux de la façon dont le festival commence. On a aussi exploser notre nombre d'accrédités cette année, donc on va voir si ça suit jusqu'à dimanche, mais en tout cas pour l'instant ça laisse présager une belle édition.
Justement, donc cette soirée d'ouverture, c'était, il y avait une projection du film Pelican Blue, un film hongrois. Pourquoi avoir choisi ce film comme film d'ouverture ?
Alors, donc sur tout le festival, nous, notre ligne éditoriale, c'est de montrer des films français. On se permet sur la soirée d'ouverture de montrer des films étrangers. Ça fait 3 ans qu'on montre comme ça des films européens, plutôt d'Europe de l'Est, parce que c'est des cinématographies qu'on a moins l'habitude de voir. Là, c'est un film qui a la particularité d'être inédit en France, dans le sens où il n'est pas sorti en salle et il n'a pas de date de prévue pour le moment. Donc c'est aussi le rôle du festival de faire découvrir des films et de pouvoir permettre aux spectateurs de voir des films qu'ils ne pourront pas voir autrement. Et là, on a aussi trouvé que c'était un film qui était... donc c'est un documentaire animé sur 3 jeunes... qui mettent en place un trafic de billets dans l'Europe, enfin entre la Hongrie et d'autres pays d'Europe au moment de la chute du bloc communiste. Voilà, donc c'était aussi un petit pas de côté et puis de montrer ces films-là qu'on ne voit pas autrement.
Les autres, on peut parler aussi des autres films, du coup il y en a plus d'une centaine si je ne me trompe pas. Comment ces films ils sont choisis pour être projetés ?
Oui, alors... on a plusieurs... Enfin, l'objectif du festival, c'est vraiment de montrer, d'être une vitrine de toute la production française d'animation de l'année écoulée. Donc, on a des courts-métrages, des séries, des longs-métrages, des clips. La plupart de ces films, ils sont choisis... C'est un appel à films, donc on reçoit des films. Et ensuite, on a des comités de sélection qui sont composés des équipes de l'AFCA, du conseil d'administration, de partenaires qui font une sélection de tous ces films. Que ce soit les courts-métrages professionnels et étudiants pour de la compétition, ou ensuite on a des sélections non compétitives. La seule particularité, c'est les longs-métrages qui ne sont pas sur un appel à films, c'est juste des reprises des longs-métrages de l'année écoulée.
Ok, donc vous en avez un peu parlé du coup, donc il y a une compétition forcément, il y a une dizaine de catégories je crois. Comment vous décidez de ces catégories ?
Alors c'est plutôt des thématiques, c'est-à-dire que nous on fait nos sélections, donc cette année il y a 66 courts-métrages en compétition, 31 étudiants et 35 professionnels. Ils sont choisis par des comités différents, ils sont aussi jugés par des jurys différents. En revanche, ils sont diffusés en effet dans des programmes de compétition où on mélange tous ces films. Et en effet, ils sont choisis plutôt, on les met ensemble par thématique. Là, c'est vraiment, on essaie de tirer des fils pour un peu justement trouver les liens entre les films et donner une cohérence finalement à la programmation. Ils sont aussi répartis par tranche d'âge parce qu'on a des programmes pour les tout-petits et pour les enfants. Donc on a 4 programmes pour les enfants et ensuite c'est des programmes pour les adultes.
Justement, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore affaire à des gens qui disent que les films d'animation, c'est pour les enfants ?
Oui, beaucoup. C'est justement aussi, quand vous me demandiez l'émission de l'AFCA, nous, ça fait partie aussi du travail qu'on mène de former à la fois les spectateurs, mais aussi les professionnels, notamment les professionnels de la diffusion, donc ceux qui montrent les films, et de leur montrer que le cinéma d'animation, c'est pour tout le monde. Le cinéma d'animation, c'est pas un genre, c'est vraiment une technique, et d'ailleurs plusieurs techniques, qu'au sein du cinéma d'animation, il y a des films pour les enfants, pour les adultes, il y a des films expérimentaux, du documentaire, de la comédie musicale, du film d'horreur, enfin, il y a tout. Et c'est aussi ça, le festival, c'est faire découvrir tous ces films, et quand on s'y intéresse un peu, on découvre même qu'il y a, sur le court-métrage, beaucoup plus de films plutôt pour les adultes que pour les enfants.
Vous avez abordé aussi les jurys, donc il y en a différents, vous l'avez dit. Comment ils sont choisis, ces membres, à chaque fois ?
Alors ça dépend, cette année on avait déjà une petite idée sur le fait qu'on voulait avoir un fil rouge qui est sur la musique, et donc ça a un peu orienté certains de nos choix, notamment le compositeur Rob, donc qui fait partie du jury des films professionnels, qui va donner une masterclass, ou Céline Ronté qui est directrice artistique, directrice de casting, qui va venir parler aussi de qu'est-ce que c'est travailler le doublage, qui dans l'animation est très importante parce que le son c'est quand même 50% du film. Ensuite on vient généralement, on essaie d'avoir un producteur, on a une réalisatrice qui fait de la stop motion parce que c'est une technique qu'on met en valeur dans le festival dans le cadre de nos rendez-vous professionnels. Et voilà, ensuite c'est aussi en fonction des personnes qu'on va avoir rencontrées, qu'on a envie de faire venir et qui permettent de représenter un peu tout l'ensemble de la filière.
Sur toutes ces projections, il y a aussi des projections des films bricolés AFCA. Donc, si j'ai bien compris, c'est le résultat de projets d'éducation artistique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ?
Oui, alors l'AFCA, donc, le festival, il a lieu là pendant 6 jours, mais nos équipes à Rennes mènent un travail à l'année sur le territoire rennais et du département d'Ille-et-Vilaine et même de la Bretagne, avec des projets d'artistes en résidence qui vont mener des ateliers dans des écoles, dans des collèges, dans des IME ou des maisons de retraite. Enfin, donc on va travailler justement sur le territoire, on va faire découvrir le cinéma d'animation par la pratique. C'est-à-dire qu'ils vont, sur plusieurs jours, plusieurs séances, réfléchir et concevoir ensemble et fabriquer ensemble des films d'animation. Et le résultat de ces ateliers, de ces résidences, sont visibles du coup au Musée des Beaux-Arts de Rennes tous les jours en boucle.
Ok. Et depuis hier et jusqu'à dimanche soir, il y a aussi une exposition à l'EduLab de l'Hôtel Pasteur consacrée à Anine Koraz. Alors, c'est une créatrice gazaoui qui a réalisé des courts-métrages avec des enfants. C'était important pour l'AFCA de créer cette expo en parallèle ?
Oui, en fait, on a... Donc nous, c'est quelqu'un du conseil d'administration qui a attiré notre attention sur le travail que menait cette réalisatrice à Gaza. Et on s'est dit que c'était... peut-être notre façon à nous de montrer une forme d'engagement politique, parce que le cinéma, c'est aussi ça. Et c'était l'occasion de montrer le quotidien de cette réalisatrice qui mène en effet des ateliers dans des conditions qui sont évidemment déplorables, mais qui réussit quand même à faire ressortir des films qui sont drôles, qui sont très ingénieux. Et c'était aussi l'occasion de montrer ça et d'attirer l'attention aussi des gens sur ce type d'initiative qui existe quand même malgré ce qui se passe là-bas.
Mmh. On retrouve aussi, donc, au-delà de tout ce qui est proposé au public, il y a pas mal de rencontres professionnelles aussi pendant le festival, avec des pitchs de projets, des conférences. J'imagine que c'est l'occasion en fait, pour les professionnels de créer des opportunités pour les réalisateurs et réalisatrices.
Oui, le festival il est de plus en plus identifié à la fois comme un lieu de rendez-vous où les producteurs vont par exemple pouvoir découvrir des talents, que ce soit en voyant des films étudiants, en allant assister aux pitchs de projets, ou aussi des jeunes réalisateurs ou des jeunes auteurs vont pouvoir rencontrer des collaborateurs, créer des projets. Et on est vraiment identifié comme un lieu de rencontre pour... on voit des projets qui naissent aussi au festival et qui, par exemple, le court-métrage Burke, qui a été récompensé d'un César cette année du court-métrage, il avait pitché en 2017 au festival. Donc on a des projets qui naissent à Rennes et des collaborateurs qui se noue. Donc c'est une première chose. Et puis, le festival et ses rendez-vous professionnels, c'est aussi un temps où les professionnels peuvent se retrouver et discuter ensemble des enjeux de la filière, réfléchir. Enfin, l'objectif, c'est d'avoir une réflexion collective sur comment est-ce qu'on avance ensemble, quels sont les problèmes, les enjeux, et comment est-ce qu'on construit ensemble, finalement, ce secteur et ce milieu.
Justement, dans les enjeux, on voit en ce moment le milieu culturel est un peu à la peine. On sait que les subventions sont en forte baisse un peu partout. Comment ça se passe, vous, pour le cinéma d'animation ?
Pour le cinéma d'animation, c'est compliqué comme pour tout le monde. Y a en ce moment particulièrement, on constate une crise, mais qui touche plus les gros studios qui... pâtissent de l'explosion d'une bulle qui a eu lieu il y a quelques années où les plateformes ont beaucoup commandé à des sociétés de production, des studios en France et qui se sont retirés aussi vite. Et donc, en fait, certains studios se retrouvent à avoir augmenté leurs effectifs et ensuite à ne plus avoir de travail à leur donner. Mmh. Et donc, on a beaucoup de situations de studios qui sont rachetés. Voilà, il y a un enjeu. On a le nombre d'écoles qui explosent et qui et avec des étudiants qui sortent d'école et qui trouvent pas forcément de travail. Donc, comme partout, on est touché à des échelles différentes. Il y a aussi plus de films qui sont faits et des enveloppes qui ne bougent pas. Donc, forcément, il y a moins d'argent pour les films. C'est pas forcément très réjouissant. Mais en même temps, le festival est le moment où on se réjouit à nouveau, il y a un enthousiasme qui se crée parce qu'on voit aussi cette énergie collective et cette volonté de faire des films, de les montrer et de voir tout ce qu'on fait, toutes les belles choses qu'on fait. Mmh. Et c'est aussi des personnes qui réfléchissent justement à comment on fait des films avec moins d'argent, comment on fait des films de manière plus écologique. Voilà, ça, ça, finalement, comme partout, dans la contrainte, on crée des nouvelles choses.
Justement, dans l'actualité, vous parliez d'écologie tout de suite. On a vu les progrès de l'intelligence artificielle avec ces fameux dessins récemment qu'il y a eu dans le style de Miyazaki. Il y a aussi des avancées sur le doublage. Comment les créateurs et créatrices, elles abordent cette vague de l'intelligence artificielle ?
J'ai l'impression que chacun le prend un peu... Les positions sont très différentes. Il y a vraiment des gens qui sont très réfractaires, d'autres qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut juste mieux travailler avec ces nouveaux outils et qui vont le comparer à l'arrivée de tout un tas d'autres avancées technologiques et qui disent, les ordinateurs sont arrivés, on a dit que ça allait remplacer le dessin, ça n'a pas été le cas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui craignent parce qu'on voit déjà concrètement que des artistes sont remplacés, que ça coûte moins cher, donc notamment sur tout ce qui est films de commande, que ce soit de la publicité, des clips, où les artistes commencent à faire appel à de l'intelligence artificielle pour produire plus, pour moins cher. C'est des réflexions qu'on mène. Nous, on est partenaire de l'école Creative Seeds qui a créé justement un groupe de travail qui s'appelle Creative Machine, qui réfléchit, encore une fois, collectivement, à toutes ces avancées sur l'intelligence artificielle qui réfléchissent à... l'idée, c'est de pas de diaboliser, c'est plus de chercher à comprendre. On n'a aujourd'hui de toute façon pas le recul nécessaire pour savoir où est-ce que ça va aller. Mais il y a évidemment une vigilance à avoir sur le sujet.
Okay. Toujours sur ces questions un petit peu d'éthique, sur le site du festival, on peut lire qu'il y a trois axes qui sont développés par le festival, qui sont l'accessibilité, l'éco-responsabilité et la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Qu'est-ce que ça signifie et concrètement, comment c'est mis en place ?
Alors, sur l'accessibilité, on fait en sorte que tous les longs-métrages qui sont disponibles dans ce format soient diffusés soit avec des sous-titres pour les sourds et malentendants, aussi disponibles en audio description, quand ça existe. Pour la première fois cette année, on a pu accompagner une rencontre d'une traductrice LSF pour encore plus d'accessibilité grâce au soutien de la MAIF. On essaye de faire en sorte, c'est sur les longs métrages qu'on peut être le plus accessible parce que généralement sur les courts métrages ces versions n'existent pas. Mais on met aussi à disposition des files donc faciles à lire et à comprendre. Donc on essaye de rendre le festival le plus accessible possible à toutes et tous. En ce qui concerne l'éco-responsabilité, c'est plus une sensibilisation pour le public du festival. Et c'est surtout sur la lutte contre les VHSS où nous, on a vraiment deux personnes référentes qui ont été formées. On a tous nos bénévoles sont formés. On a des cartons. On essaye de faire en sorte que tout le monde passe un bon festival en étant très attentif à ce genre de choses puisqu'on sait que c'est aussi des contextes où les dérives arrivent plus rapidement.
Une petite dernière question peut-être pour finir cette interview. Est-ce que vous avez un coup de cœur dans les films qu'on veut projeter cette année ?
C'est dur, en plus j'ai pas trop le droit de dire mes coups de cœur sur la compétition. J'aime évidemment tous les films que je montre. Mais peut-être qu'au-delà d'un coup de cœur, je vais parler d'une séance deux séances qui auront lieu ce week-end. Une rencontre avec Albin de la Simone autour de La Vie de Château. Sur la composition de la musique. La Vie de Château, c'est une très belle série qui est visible en ligne, si vous avez l'occasion, et qui est accessible pour les petits et les grands. Et donc, on va parler pendant une heure de son travail de compositeur et notamment du travail qu'il a fait sur la série. Et puis, dimanche, on a la chance de pouvoir remontrer le film de Jean-François Guionni, Le Tableau. Et c'est une séance qui aura lieu au Champ Libre, qui est gratuite en plus. Et il sera là pour parler du film. Donc, c'est aussi l'occasion de redécouvrir un très beau film.
Ok, Jeanne Fromer, merci beaucoup. Et puis le festival du film d'animation, c'est donc à retrouver jusqu'à dimanche.
Tout à fait. Et puis nous, on y sera avec 6h avant minuit demain à 18h en direct du TNB. Donc ne manquez pas ça pour une émission spéciale.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Aujourd'hui, dans la chronique sport de Marilyn, on plonge au cœur d'un sujet brûlant, les commotions cérébrales dans le rugby et plus largement dans les sports de contact. Les récentes déclarations de Sébastien Chabal ont ravivé les inquiétudes, mais qu'en est-il réellement, Marilyn ?
C'est vrai que j'ai aucun souvenir
Et quand je dis aucun, c'est aucun.
C'est bon.
Souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Mais je suis très sage, je pense que c'est pas moi.
Et les médecins, t'es pas allé voir un neurologue ou un truc ?
Non.
Ça va, non ?
Quoi faire ? La mémoire ne reviendra pas.
Putain, c'est fou.
Je redécouvre ma vie.
Ce sont les paroles de Sébastien Chabal dans l'émission Légende sur YouTube. Il décrit une amnésie totale concernant ses 62 sélections en équipe de France, des confidences qui ont sidéré au-delà du milieu rugby, du rugby, et qui ont aussi ravivé les inquiétudes. Je cite par exemple Jean-Luc Fabre, président du club de Sète, qui nous dit dans l'équipe, s'il a véritablement perdu la mémoire, c'est effrayant. Et ça ne va pas rassurer les parents au moment d'amener leur enfant au club. Fin de citation. Alors, à la lecture de ces propos, ma réaction a été, c'est tout ce qu'il retient, car les inquiétudes, elles se portent sur la santé des sportifs, notamment des sportifs qui ont des contacts assez violents dans le cours de leur pratique. Par le biais de mes recherches, j'ai découvert que la Fédération française de rugby fait désormais face à un recours collectif des joueurs dont l'ex-international canadien Jamie Cudmore pour manquement à l'obligation de sécurité. En cause, retour précoce sur le terrain malgré les commotions, sous-estimation des chocs répétés, même sans perte de connaissance, et calendrier surchargé aggravant les risques. Nous allons donc nous concentrer sur ce mal invisible qui est revenu dans les débats ces derniers jours. Avec 10 commotions pour 1000 heures de jeu, le rugby est en première ligne. Le carton bleu, mis en place par la Fédération française de rugby depuis 2017, impose un arrêt de 23 jours pour les moins de 18 ans, après une première commotion. Et 42 jours en cas de récidive. La fédération montre donc l'exemple des mesures nécessaires, mais est-ce suffisant ? Parce qu'en réalité, les 324 532 licenciés français se cachent une réalité plus sombre. 5 à 9% des traumatismes sportifs sont des commotions, selon l'Académie de médecine. Un chiffre qui explose chez les jeunes, où 30% des clubs amateurs ne signalent pas les chocs crâniens. Les commotions ne sont pas l'apanage du rugby. Au football, 40% des commotions sont liées au jeu de tête. Quant au hockey sur glace, il présente un taux de commotion équivalent au football américain. Et n'oublions pas les sports dits « moins dangereux », entre guillemets, comme l'équitation, l'équitation est la première cause de commotion chez les femmes hors contact, et le cheerleading a conduit à plus de 25 000 visites aux urgences aux États-Unis en 2007. Les sportifs subissent plus de commotions que les hommes à pratique égale. Une étude révèle même un ralentissement de l'activité cérébrale chez les footballeuses ayant subi des commotions. Xavier Bigard, médecin du sport, souligne la gravité des commotions répétées subies sans prise en charge adéquate. Un cas extrême mais révélateur, 10% des sportifs subissent au moins une commotion avec un risque accru chez les moins de 20 ans. En effet, les jeunes athlètes, cobayes involontaires, en sont aussi victimes. Chez les 10-18 ans, les sports de combat génèrent 48 commotions certaines sur 100 blessures étudiées. Et il y a également un danger amplifié par le syndrome du second impact, mortel dans 50% des cas chez les adolescents. Le témoignage de Sébastien Chabal doit marquer un tournant. Face aux 100 000 commotions estimées annuellement en France, la prévention n'est plus une option mais une obligation. Les instances comme la Fédération française de rugby ont désormais les clés en main. Protocole renforcé, carton bleu, arrêt obligatoire, mais cela ne suffira pas sans un changement profond des mentalités. Le rugby et tous les sports à risque doivent intégrer une vérité simple. Un joueur commotionné est un joueur en danger. Une joueuse commotionnée est une joueuse en danger. Pas un guerrier ou une guerrière à glorifier. Les parents, entraîneurs et entraîneuses et dirigeants et dirigeantes doivent comprendre qu'un plaquage mal sécurisé à 12 ans peut détruire une vie à 40 ans. La solution, éduquer dès le plus jeune âge, comme le fait la Fédération française de rugby avec ses kits pédagogiques, sanctionner rigidement les négligences comme le réclame le docteur Sherman et surtout écouter les athlètes quand ils disent que ça ne va pas. Car derrière les statistiques, il y a des mémoires effacées, des familles bouleversées, des vies raccourcies. Le sport doit rester une passion, pas un chemin vers la ruine neurologique. La balle est désormais dans notre camp à tous, joueurs, joueuses, médecins, supporters et supportrices. À nous de faire en sorte que le prochain Sébastien Chabal n'ait pas à choisir entre sa gloire et sa santé.
Faites de la radio, c'est moins risqué. Merci Marilyn, je crois qu'on a un petit message sur notre répondeur ce soir.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Bah, salut, c'est Simon. Alors moi d'habitude je suis sur Radio Laser entre 17h et 18h, c'est pas pour faire de la pub pour les autres radios, mais je me suis dit que j'allais passer un petit coucou à l'équipe de Syllab. Et vous, éditeurs de Syllab, bah, continuez à soutenir cette belle radio où il se passe plein de trucs. Et puis soutenez les autres radios, parce que les médias locaux ont bien besoin de vous. Bravo pour l'émission, en tout cas c'est cool, je vous écoute quand je rentre du boulot juste après mon émission, parce que j'aime bien écouter ce qui se passe ailleurs, donc continuez, puis gros soutien de la part de Radio Laser et puis de ma part.
Merci Simon, c'est trop gentil. Écoutez Radio Laser, c'est quoi le FM de Radio Laser?
C'est 96.9 ou 95.9, je ne sais plus exactement.
Ouais, essayez les deux. Au pire, vous tomberez peut-être sur deux radios super, on ne sait pas. Merci beaucoup Simon. Et si vous voulez faire comme Simon et nous dire à quel point vous nous aimez, laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. On prend aussi les critiques constructives, of course. Merci, Dan, pour la technique. Nous, on se retrouve demain au Festival du film d'animation. Salut.
Si, la radio sauvage.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.